France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Margot Leridon, Barthélémy Gaillard, Joséphine Reinhardt, Gwendoline Troiano et Christelle Anger, réalisé par Vivian Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est Paul Guig. Un mois après la chute de Bachar al-Assad, demain la Syrie, 4 épisodes cette semaine pour évoquer l'avenir du pays aujourd'hui dirigé par le groupe islamiste HTS. Nous évoquerons les enjeux économiques quand il s'agit de rebâtir sur des ruines, des dilemmes de la diaspora syrienne, les conséquences régionales de ce changement de régime. Aujourd'hui, la promesse formulée par Hayat Tahrir al-Sham de rétablir le dialogue au sein de la société syrienne, de la révolution à la reconstruction.
C'est un sentiment indescriptible. Avant, on n'osait pas, on avait peur des checkpoints, on nous mettait la pression, on souffrait. Il y avait la peur, nous étions réduits au silence, nous n'osions pas dire un mot. Il y avait toujours la peur et l'oppression.
Le régime a créé d'énormes divisions au sein de la société. Nous voulons ouvrir la voie à l'exercice des droits pour tous. Nous allons reconstruire un nouvel État et faire en sorte de ne pas reproduire le même système.
Il faut que les unités militaires, y compris l'aide militaire du HTS, soient intégrées au sein de l'institution. Nous espérons atteindre un stade où nous ne parlerons plus de factions. C'est du passé. Ce n'était qu'un moyen pour arriver à nos fins.
Convaincre les différentes factions, non pas de rendre les armes, puisque toutes n'ont pas été vaincues, mais au moins de les poser, de laisser là leurs fusils, leurs munitions, éventuellement leurs uniformes quand il s'agit d'anciens soldats de Bachar al-Assad, et de rejoindre une future armée unie et plurielle, celle de la Syrie de demain. Alors que des combats et règlements de comptes ont toujours lieu en Syrie, y compris menés par d'anciens fidèles du régime, comme hier à Latakia sur la côte, il peut sembler précipité de parler du projet politique du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Mais le groupe organise déjà la transition, promet un dialogue au long cours avec les différentes communautés qui composent la société civile syrienne, y compris les chrétiens, les kurdes, les alaouites, et Abou Mohamed al-Joulani, qui a abandonné son nom de guerre et se fait appeler désormais Ahmed al-Shara, cherche à se donner une légitimité en Syrie et à l'étranger. Sa rencontre vendredi à Damas avec le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot et son homologue allemande, dont il n'a pas saisi la main qui se tendait vers lui, a déjà été largement commenté. Quel avenir se dessine pour la Syrie? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Patrick Henny.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence. Vous êtes parmi ceux qui connaissent le mieux HTS pour être resté très longtemps à Idlib, observer la façon qu'a eu le groupe d'administrer cette ville et cette province. Vous avez à plusieurs reprises rencontré Mohamed al-Joulani. Quand la dernière fois d'ailleurs, en quelques mots? Quand était la dernière fois?
Il y a une semaine.
Il y a une semaine, et vous êtes rentré tout récemment dans ces jours en Syrie, notamment dans la ville d'Alep. Bonjour Alaa Kodmani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes grand reporter à Libération. Vous avez eu l'occasion de raconter sur France Culture dans les matins vos retrouvailles avec Damas juste après le départ de Bachar al-Assad le 8 décembre. Vous n'y étiez pas retourné depuis 2011 et cette fois vous y êtes allé non pas comme journaliste mais comme syrienne.
Absolument. Je voulais vraiment en profiter, tout simplement en tant que Syrienne, et partager avec les Syriens la liesse qui était la nôtre, le bonheur, la délivrance que j'ai pu vivre à Damas sans avoir la pression du travail de reporter et de devoir rendre des papiers, etc. Même si, évidemment, je le referai.
Vous n'avez pas vécu le 31 décembre à Damas, vous étiez rentré à ce moment-là. On entend cette liesse dans les rues de Damas. Il y en avait partout, la musique techno, des jets de lumière, des hommes et des femmes de tous les âges. Est-ce que vous savez, Alaa Kodmani, qui l'avait organisé cette fête?
Je crois que tout est faisable. Il y a un côté, maintenant, tout est possible. Je ne sais pas précisément, mais je crois que ça a été en grande partie rendu possible par les autorités en place. Sur le plan de barrer les routes, etc., comme je l'ai vu lors des premières manifestations de Liesse au lendemain de la chute du régime. Donc bon, c'est beaucoup un élan complètement spontané de la société syrienne. Il faut savoir aussi que plein de gens de la diaspora, de partout, d'Europe, des États-Unis, des pays arabes, etc., sont en train de rentrer, sont rentrés justement pour les fêtes. Mmh. Ils en ont profité, et pour faire la fête à Damas, quoi de mieux cette année.
C'était toujours un peu vertigineux d'imaginer que beaucoup des jeunes qui dansaient dans les rues de Damas, même s'il n'y avait pas que des jeunes, mais beaucoup de ces jeunes étaient tout petits au moment de la révolution 2011, il y a bientôt 14 ans, et n'avaient pas vécu aussi profondément que vous, adultes, ce qui s'est passé à ce moment-là.
Alors, ils l'ont pas vécu, bien sûr, mais ils ont grandi dedans quand même. C'est-à-dire que leur famille, leurs parents, ils n'ont pas vécu les tirs, ils n'ont pas vécu les sièges, ils ont souvent vécu l'exil, le déplacement, les souvenirs d'enfance, c'est un peu, ça peut être des tentes, ça peut être des déplacements, ça peut être... Et puis, la famille, les parents ont complètement transmis, on sait... Même les enfants, même la nouvelle génération, je suis frappée d'ailleurs de voir combien la nouvelle génération, qui a 20 ans aujourd'hui, est très sensible et a été très mobilisée et s'est exprimée ces derniers temps sur le renversement du régime.
Et vous, Patrick Hini, vous étiez encore en Syrie le 31 décembre ou vous étiez déjà rentré?
Non, j'étais parti en fait le 31 décembre au matin.
D'accord, vous êtes parti pile à ce moment-là. Et il se trouve qu'une grande partie de la Syrie était en fait le 31 décembre, mais qu'une autre était toujours et l'est toujours en plein cauchemar. On parlait vendredi dans le retour de terrain des dizaines de milliers de Kurdes qui doivent fuir les milices soutenues par la Turquie dans le nord-est de la Syrie. Il y a aussi des groupes toujours fidèles au régime qui cherchent aussi à se venger contre HTS. Il y a eu hier encore à Latakié des combats mortels. Ce groupe qui s'est constitué pour lancer une guérilla entre Latakié, Tartous et Damas. Patrick Hini, dans l'ouest syrien, donc, contre ces nouvelles autorités, quelle importance lui donner à cette résistance syrienne qui a déjà publié des premiers communiqués?
Alors, je pense que sur la question de la côte, que je connais un peu moins, hein, mais en gros, on est vraiment sur une dynamique un peu double. D'un côté, on a vraiment la société alaouite dans son sens large qui est comme été assommée par le changement en cours. Une partie des hommes ont fait le choix de rendre les armes en se rendant dans les différents centres de réconciliation, Marrakech Tassouia, qui ont été mis en place là-bas. Et d'autres hésitent et réfléchissent sur quelles sont leurs options. Et là, maintenant, ce qui est en train de se passer est quelque chose qui est absolument crucial. La nouvelle équipe dirigeante qui tourne autour de Ahmed Shara, ex-Abu Mohamed Jolani, est maintenant en train d'essayer de reprendre contact avec des leaders communautaires d'influence qui peuvent éventuellement arriver à terme à créer la jonction entre la société alaouite, évidemment profondément inquiète sur leur propre devenir, avec une tentation des armes qui existe, et de l'autre côté, le nouveau leadership qui est à la fois dans une volonté de contrôle, mais où beaucoup d'éléments dans sa base sont clairement dans une logique de revanchardisme aujourd'hui. Donc on a vraiment deux tendances, l'une à la base qui pousse au règlement de compte des deux côtés, et ensuite, au niveau sommital, des contacts désormais assez bien enclenchés pour trouver une solution négociée sur le devenir de la côte et son intégration dans le projet politique à venir.
On parlera en particulier des Alaouites tout à l'heure dans le Focus avec Aghiad Ghanem, qui est docteur en relations internationales à Sciences Po Paris. À la Côte-Manie, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire pendant qu'une partie de la Syrie est en liesse, une autre partie est très inquiète pour sa propre sécurité au quotidien avec des groupes armés qui ne sont pas encore désarmés, par définition.
Oui, c'est-à-dire c'était tout à fait attendu et normal ce qui est en train de se passer. On pouvait pas rêver tout d'un coup de baguette magique. C'est pas comme à Damas. On est dans une zone qui a été très mobilisée, qui était très mobilisée par le régime. Ce sont des gens qui se sont battus pendant des années et qui ont des familles qui ont perdu nombre de leurs fils dans le combat pour défendre le régime, qui ont été très mal rétribués, puisque après ils ont souffert de la négligence totale et de la crise économique terrible qui a touché la communauté alaouite, enfin la communauté pro-régime. J'aime bien dire pro-régime plutôt qu'alaouite.
Tous les alaouites ne sont pas pro-régime.
Pas seulement, c'est aussi un peu décommunautarisé ce sujet syrien.
Mais décommunautariser le sujet syrien, c'est aussi constater que les discussions pour l'instant qu'a enclenché Abou Mohamed Al-Joulani, donc Ahmed Al-Sharra, son nom, qui n'est plus son nom de guerre, avec différents représentants de communautés, pour l'instant se fait cette discussion sur des bases religieuses. Ce sont surtout des leaders communautaires ou religieux qu'il a rencontrés pour parler de ce grand dialogue syrien.
Dans la mesure où il n'y a pas de figure politique ou influente, c'est le recours des leaders religieux, des leaders de la communauté religieuse, que ce soit du côté des alaouites ou du côté des druzes, on n'en a pas vraiment besoin, mais c'est le recours. Il faut bien engager le dialogue avec quelqu'un. Il n'y a pas de représentant ni militaire ni politique avec qui on peut engager le dialogue et qui peut avoir une influence sur la société. Maintenant, les inquiétudes de cette communauté qui a été complètement instrumentalisée par le régime Assad sont tout à fait normales. Et bon, Patrick l'a très bien expliqué, oui, il y a des risques, il y a des dangers, la revanche est là. En face, on a des gens quand même qui ont reçu des bombes sur la tête pendant une dizaine d'années. Donc, bon, tout ça est là. Mais il y a quand même, enfin, d'après ce que j'ai ressenti, moi, c'était encore tôt peut-être, une volonté de se retrouver, d'arrêter les combats, d'arrêter la guerre. Il y a vraiment une aspiration profonde chez tous les Syriens, quels qu'ils soient, de sortir de cette crise qui a duré, enfin de ce conflit qui dure depuis 14 ans.
Le nouveau chef, le nouvel homme fort en tout cas de la Syrie, avait promis, et tout le groupe HTS derrière lui, une sorte de conférence nationale qui devait se tenir ce week-end, où il était question de faire venir 1200 Syriens de tout le pays et aussi de l'étranger, avec l'opposition en exil également invitée à la table. J'ai pas connaissance, enfin dans ce que les échos nous reviennent de Syrie, que cette conférence a finalement eu lieu à la Khomeini.
Elle ne s'est pas tenue. Je ne sais pas qui avait lancé cette date du week-end du 4-5 janvier avec 1200 participants, ce qui était complètement irréaliste pour savoir qui sont ces 1200, comment les choisir, comment ils représentent qui, quoi, comment. Bon, elle est en préparation. On est dans une période transitoire. Il y a beaucoup de on sent un petit peu des tâtonnements, on va dire, qui sont complètement normaux. Ces gens-là qui viennent aujourd'hui gouverner toute la Syrie, géraient correctement une province de quelques 3-4 millions d'habitants qui étaient essentiellement des réfugiés. Donc, évidemment, les enjeux sont énormes et tout en même temps. Donc, la conférence nationale, il faut qu'elle se tienne, tout le monde y tient. Les Syriens commencent à s'y préparer aussi, en désignant, en commençant à tâtonner, des listes de noms, des représentants, etc. Je pense qu'on ne peut pas brûler les étapes. Il faut, pour qu'elles soient réussies, il faut nécessairement attendre un petit peu une bonne préparation.
Même à ceux qui, à l'étranger, disent qu'il faut que des élections se tiennent le plus vite possible. Ahmed Al-Sharra disait fin décembre, dans sa première interview à un média arabe, la chaîne Al Arabiya, qu'il faudrait attendre 4 ans avant que ne se tiennent des élections, notamment ne serait-ce que le temps de recenser toute la population syrienne, laisser à tous ceux qui étaient partis le temps de rentrer et de se réinstaller s'il ou elle le souhaite. En attendant, Patrick Henni, Al-Joulani a placé dans ce gouvernement provisoire provisoire, intérimaire, des proches uniquement, cette ancienne équipe chargée de l'administration d'Idlib depuis 2017, par contrainte de l'urgence d'après vous ou par népotisme et début de confiscation de pouvoir?
Alors, la manière dont il... Moi, je pense qu'il est... Il faut le voir en termes de séquence. Jolani a été assez explicite sur pourquoi est-ce qu'il a fait le choix de s'appuyer sur son ancienne équipe, alors même qu'en matière d'optique, quand on a vu les premières photos sur le gouvernement intérimaire, évidemment, ça faisait la conquête de l'islam politique de la Syrie, quoi. Son choix était motivé par des considérations de stabilité dans l'immédiat après-guerre, si on veut bien. C'était Bachar est tombé suite à une conquête militaire. Et il savait bien qu'il était dans une situation d'instabilité très forte, avec énormément de risques. Et c'est pas dans ces moments-là où on choisit de faire le pari de l'ouverture et de l'inclusiveness, comme on dit dans les think tanks anglo-saxons. Lui a choisi de s'appuyer sur les hommes avec lesquels il a travaillé depuis 2017 à mettre en place cette expérience de gouvernance locale à Idlib. C'est les gars avec lesquels il a pris l'habitude de travailler. Il y a une espèce de cohésion interne qui s'est faite, une cohésion idéologique sur un certain point également. Et il a très clairement fait le choix de la cohésion interne. Le problème n'est pas tellement l'immédiat après-guerre que la dynamique qui est en train de s'instaurer maintenant autour de cette équipe dirigeante. Parce que Damas n'est pas une simple extension de Idlib, elle est différente en nature, en taille, les enjeux sont différents, et surtout les ressources humaines ne suffisent absolument pas à une équipe qui était déjà extrêmement limitée à Idlib. Le gouvernement du salut, qui était leur instrument de gouvernance, c'était environ 7000 personnes pour diriger une province où il y avait à peu près 2,5 millions de réfugiés. Donc, imaginez-vous quand on passe à l'échelon de la Syrie. Et en fait, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que l'équipe intérimaire consolide. Elle se consolide par capillarité. On va chercher les gens qu'on connaît, on va chercher là où on a des numéros de téléphone à atteindre, etc. Et plutôt que par choix idéologique très conscient de « on veut les islamistes au pouvoir », c'est plutôt on continue dans une logique d'extension et d'enracinement du pouvoir intérimaire à s'appuyer sur ceux qu'on connaît. Et la logique de l'interconnaissance fait que la consolidation, pour l'instant, ne se fait pas dans une logique d'ouverture, enfin, ce n'est pas de mécanisme d'ouverture pour l'instant. Et pour ça, on aura besoin de la conférence nationale. Et je pense juste encore un point là-dessus. Il est plutôt bien de donner du temps pour que cette conférence se fasse bien et que les élections viennent en bout de parcours plutôt qu'au début. Parce que si on faisait des élections maintenant, la seule force organisée qui va l'emporter, c'est évidemment celle qui a réussi à faire le coup de force contre Bachar al-Assad. Donc donner du temps pour réfléchir à une constitution avec tout le monde et ensuite avoir des élections en bout de course, c'est une bonne chose. À mon avis, il faut faire le temps pour penser la transition, ce que personne n'a réussi à faire, vu que El Jolani lui-même a été surpris quand Damas est tombé avec une telle facilité.
Surpris, il a dû appeler, donc, comme vous le disiez, tous ses proches pour leur demander d'être à ses côtés, de l'épauler pour gouverner la Syrie. Donc une partie autrement plus difficile que de gouverner une province, même si à Idlib, beaucoup s'accordent à dire que le pari avait été plutôt bien réussi.
Depuis que le HTS gouverne à Idlib, tout va beaucoup mieux. En quelques années, ils ont reconstruit tout ce qui avait été détruit, ils ont créé des infrastructures bien meilleures qu'avant, ils ont construit un stade de football et grâce à eux, nous avons de l'électricité et de l'eau courante 24 heures sur 24.
Dès la première année après leur arrivée au pouvoir, j'ai senti la différence, à quel point nous étions plus en sécurité. Cela a été comme une renaissance pour la ville, que ce soit pour l'éducation, pour l'économie, pour le commerce. La seule chose qui me faisait peur ici, c'était les bombardements.
Reportage de RFI à Idlib qui date du 13 décembre. Peut-être encore un mot, Patrick Henny, puisque vous connaissez très bien Idlib. Vous y êtes allé à de nombreuses reprises quand Al-Joulani et son équipe l'administraient. Jusqu'où est-ce que vous considérez que sa façon de faire localement est de bon augure pour gouverner le pays tout entier, comme on l'entend depuis un mois? Alors certes, vous le disiez, hein, il va falloir ouvrir davantage. On entend bien les réserves que vous avez mises, s'occuper de questions locales. Ce n'est pas pareil que faire face à des enjeux nationaux très complexes. Néanmoins, qu'est-ce que ce que vous avez pu voir à Idlib laisse présager, d'après vous, de ce qui peut se passer en Syrie, au moins dans les prochains mois, avant que ne se tiennent des élections et ce dialogue beaucoup plus large?
Alors, je pense que, je ne sais pas si on peut parler de succès pour décrire la situation où un tiers de la population vivait dans des camps nourri à coups de foot basket de l'ONU. Mais effectivement, ce que HTS a su donner à la population à Idlib, et c'est dans un pays qui a souffert de la guerre pendant plus de 12 ans, ça reste l'essentiel, c'est la sécurité. Alors je pense que la recette de l'expérience de Idlib, du relatif succès, allons-y pour le terme, c'est unifier les armes et imposer un commandement unique et la sécurité. C'était deux, assurer que la trêve tienne. Et là, on a quand même ce paradoxe que depuis 2020, un des protecteurs de la trêve, c'est un mouvement djihadiste qui est censé faire la guerre. Le fait que la trêve ait tenu dans la durée pendant 4 ans, ça a permis un long retour de l'investissement d'abord syrien, des hommes d'affaires, notamment de Alep, qui s'était exilé à Idlib, qui voit que la situation se calme, réinvestisse. On a vu l'émergence d'un véritable espace public. On a une prolifération de malls. Il y a une trentaine de malls qui sont construits en 2 ans à Idlib, des restaurants, des cafés, 4 zoos qui ont été ouverts avec le zoo de Idlib, et ont réussi à ramener 3 lions du zoo de Bagdad, pour l'anecdote. Mmh. Et également, et ça c'est important, une université dont la majorité des étudiantes étaient des femmes. Donc il y a une espèce de... Le succès de Idlib, si on veut parler dans ces termes-là, c'est d'avoir mis en place une espèce de normalité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la capacité de HTS... avoir fait le pari non pas de réformer la société sur une ligne dure, radicale, salafiste, etc., mais plutôt de s'être réaligné sur une espèce de conservatisme musulman, sunnite, révolutionnaire, etc., tel qu'il existait à Idlib aujourd'hui. Donc il y a une espèce de déradicalisation du mouvement qui s'est fait en se moulant dans cette espèce de mainstream révolutionnaire sunnite musulman conservateur, qui fait que l'expérience a été bon an mal an plutôt acceptée par les populations.
Avec
alors, quand il la y en question avait... du succès, oui. pour Damas, excusez-moi, je vais juste terminer là-dessus, c'est que cette espèce de recentrage idéologique qui a marché dans un environnement conservateur comme celui de Idlib, évidemment, il faudra aller bien plus loin une fois qu'on arrive à Damas, mais aussi dans un contexte où les milieux conservateurs ont repris du poil de la bête. Hein. On voit maintenant une partie des mosquées qui tombent sous le contrôle des ailes dures, pas forcément du mouvement d'ailleurs, mais qui existent dans la société. Et là, maintenant, on va avoir une vraie compétition, je pense, à venir, une polarisation potentiellement dangereuse entre ceux qui s'affirment sur une ligne plutôt non islamiste, voire séculaire, et ceux qui pousseraient le curseur plutôt vers une vision beaucoup plus dure et radicale.
Donc encore Jolani une grande vision. Oui, pardon, à la Côte Mani, vous voulez réagir à ce que vous disiez, Patrick Henny.
Je voulais rebondir vraiment sur ce point-là. On est enfin à un moment d'ouverture où toutes les tendances politiques, idéologiques, etc., syriennes, sont en train de s'exprimer. Alors évidemment, il y a les plus extrémistes, évidemment, mais il y a aussi, et ça on le voit de plus en plus à Damas, les plus progressistes, les plus ouverts, les occidentalisés, les laïcs, qui viennent avec une certaine, même beaucoup d'audace, et confronté même, on voit, bon, ceux qui viennent de l'étranger, c'est plus facile, mais on voit tout d'un coup la société civile qui se réveille. Demain ou mercredi, il y a une conférence de presse d'une organisation de femmes syriennes, femmes politiques syriennes, qui veut absolument montrer, dire qu'on a notre place, et ça fait des années, bon, la plupart viennent d'Europe ou non, mais il y en a beaucoup de locales aussi. On voit les jeunes se mobiliser. Donc, on est enfin, c'est quand même un rêve syrien, parce que ce n'est jamais arrivé, face à une scène plurielle, une scène vraiment où toutes les tendances de la société peuvent s'exprimer.
Et on parle plus de Jodadel,
c'est pas
par exemple
seulement une inédit sur le plan syrien, mais dans toute la région. Et à la limite, ça peut faire peur, oui, aux voisins.
On en parlera jeudi d'ailleurs des conséquences régionales de ce qui est en train de se passer en Syrie. On ne parle plus d'Al Joulani comme de, comme on le disait, Jodaden. On le comparait à Ben Laden, à Asma Konmani, même dans les milieux beaucoup plus très laïques. Et j'allais dire, en ce qui vous concerne, j'allais dire occidentalisé, mais le mot est très moche et c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais en tout cas, qui ont été en exil, ce terme, cette étiquette lui collait à la peau d'être celui qui a connu Ben Laden et qui en était un porte-parole, et on ne parle plus de lui dans ces termes.
Oui, j'ai fait un petit billet dans Libé sur comment les mutations de Ben Laden, de Joulani, mauvais lapsus, et dans les différentes étapes, il est passé de Jodaden, il est passé par Jodadi,
du nom
et là
aujourd'hui
c'est Gentleman.
Gentleman
en costume cravate, conseillé apparemment par une boîte de relations publiques britannique, boîte de conseil apparemment, et bon, mais
il lui a pas conseillé de
toutes sortes de gages, y compris des gages d'ouverture dans tous les sens, vis-à-vis non seulement de l'étranger, de l'international, mais aussi de la société syrienne, de la diversité de la société syrienne. Il les donne des gages. Il faut vraiment suivre pas à pas et voir que dans les actes, y compris d'ailleurs sur le rétropédalage sur certains trucs, quand certaines choses sont avancées. Là, on a vu des gens dire, bon, bah, les programmes scolaires, on va enlever tout ce qui est à la gloire de Bachar al-Assad, de la famille Assad. Bon, très bien, ça, c'est normal. Mais on va aussi enlever, je ne sais quoi, qui a introduire des choses plus religieuses. Non. Et il y a eu, tout d'un coup, rectificatif.
Un mouvement de société civile aussi.
On est encore dans une période de tâtonnement, comme je disais. Et Joulani essaye de jouer le jeu. Il est là où il est très cohérent, ou là où il est, on peut lui faire confiance, c'est qu'il connaît ses priorités. La première priorité, je crois que Patrick a insisté dessus, c'est la sécurité. Et l'enjeu est énorme. Parce qu'il y a encore, on a parlé de la zone côtière, mais il y a aussi le côté des Kurdes, et même dans le sud du pays, où les milices ne veulent pas rendre des armes.
En tout cas, vous le disiez, Ahmed Al-Sharas s'est entouré de conseillers britanniques, une agence de communication pour son image, qui ne lui a apparemment pas conseillé ou n'a pas pensé à le conseiller de serrer la main de cette ministre des Affaires étrangères allemande lors de sa visite à Damas. Alors ça a été très largement commenté. Il y a eu aussi beaucoup de fausses informations qui ont circulé en disant que les médias syriens avaient même flouté l'image de cette ministre, ce qui est faux. Et il y a d'ailleurs tout un mouvement de fact-checking, comme on dit aujourd'hui en Syrie, pour dire voilà, il faut démêler le vrai du faux et ne pas en faire trop. Néanmoins, sur cette question-là, est-ce que ça vous a surprise? Comment vous avez réagi? Parce que j'imagine que les auditeurs vont nous écrire à ce sujet.
Tellement exploité, tellement grossi, tellement. Bon, ben, les islamistes ne serrent pas les mains. Dire, bon.
Oui, ça vous a pas surprise, c'était fidèle à ce
qu'il est. Ça m'a pas surpris, mais on en a fait des tonnes quand même. Et surtout, ce qui est plus important, c'est qu'on a réduit toute la visite des ministres français et allemands, qui était quand même le premier pas de ministres européens en Syrie. C'était pas terrible, hein, mais quand même, tout a été réduit à ça. Et c'est vraiment grossier quand même, c'est un détail, bien sûr, ça peut choquer, je comprends, mais bon.
En tout cas, les femmes en Syrie disent qu'elles seront très vigilantes.
J'espère de tout mon cœur que les choses resteront telles qu'elles sont. Parce que si jamais ils commencent à opprimer les femmes comme nous, qui nous ressemblent, c'est-à-dire les gens qui sont ouverts, avec des convictions qui sont très ouvertes, d'accord ? Ça, nous allons lutter.
J'espère qu'ils laisseront les femmes étudier et faire ce qu'elles veulent de leur apparence physique. Comme ma fille, avec ses cheveux libres.
Des témoignages recueillis par France 24 le 13 décembre 2024, donc de Syriens et Syriennes qui seront très vigilants sur ce qui se passe. Des femmes ont été nommées d'ailleurs à des postes importants, quelques femmes à la Khonmani,
oui,
pour l'instant, dans l'équipe.
Ce sont des premières, hein, à la tête de la Banque Centrale. C'est quand même un poste très important et bon, c'est la première fois qu'une femme l'occupe. Et c'est la première fois, je l'ai appris, ça m'a étonné, que le poste de gouverneur de province, c'est vraiment plus qu'un préfet, hein, en Syrie. Donc, une femme pour la région de Souéda, à majorité druze, une femme druze, donc, qui a été nommée gouverneur de cette province. C'est parmi les gages que je disais d'ouverture. Et de bon, il y a eu aussi la réception de tous les patriarches et archevêques des différentes églises d'Orient qui avaient besoin d'être rassurés.
Notamment l'archevêque d'Alep du nord de la Syrie et de la zone côtière qui, dans les quelques entretiens qu'il a accordés, notamment à l'Humanité, s'est dit plutôt confiant, dit qu'il a pu exprimer ses craintes de voir s'imposer une loi islamique, notamment dans les écoles qui séparaient garçons et filles, mais que on nous dit que ça ne passera pas, dit-il. À Idlib, Patrick Henny, d'ailleurs, que reste-t-il aujourd'hui de la communauté chrétienne et du patrimoine chrétien?
Alors, il n'y a jamais eu de grande présence chrétienne à Idlib. Il reste quelques poches dans la ville. Il y a trois villages qui sont au sud-ouest de la ville. Et ces trois villages ont été un peu les lieux où se sont HTS a un peu expérimenté, on va dire, l'école de la prise en compte de la diversité religieuse. Et depuis plusieurs années, ils s'étaient escrimés à mener un processus de réconciliation qui a plutôt bien marché d'ailleurs, avec ce qui restait de la communauté chrétienne dans ces trois villages. C'est moins de 1000 personnes, mais où ils ont entrepris des programmes de restitution du patrimoine immobilier, de lutte contre les discours violents, mais aussi de restitution des terres agricoles, et ce qui a permis ensuite, sur cette base, de faire deux choses, de faire revenir une partie des chrétiens de ces villages qui étaient dans les zones contrôlées par le régime de Bachar al-Assad, revenir chez eux, mais ensuite et surtout, et là c'est l'importance stratégique de ces trois villages, c'est qu'ils ont servi de modèle pour rassurer la communauté chrétienne de Alep au moment de la prise de Alep. Et la communauté chrétienne a dû faire, dans l'immédiat après bataille, alors que les troupes de HTS partaient à la conquête de Hama et de Homs, le choix de est-ce qu'ils vont se retirer ou rester à Alep. Et le choix de la rétention des populations à Alep par le clergé chrétien s'est fait sur une grande partie sur la base de ce qui s'est fait dans les années précédentes dans ces trois villages, et ça a permis en quelque sorte de poser le modèle de conquête plus ou moins réussie de Alep pendant que HTS faisait le siège de Hama et de
À la Khonmani, c'est la question. Oui, pardon. Vraiment très rapidement, parce que le temps file, et à la Khonmani, vous voulez réagir à ce que vous disiez, si vous aviez vraiment la gentillesse de nous le dire rapidement, s'il vous plaît.
Écoutez, je vous le fais en 30 secondes, je vous promets, je ferai pas plus que ça. C'est l'histoire du rétropédalage que Hal avait mentionné, et je pense que c'est hyper important pour comprendre comment se construit la relation du pouvoir au conservatisme religieux, moral, etc. Depuis l'expérience de Idlib, on voit que de manière assez systématique, il y a des pressions de la base assez fortes sur le leadership pour plus de conservatisme, plus de d'islamisation en quelque sorte des styles de vie. Et ce qu'on a vu, c'est que de la même manière que ça a fonctionné avec les curriculums éducatifs, c'est le recours au leadership du mouvement qui permet ensuite de retourner des décisions conservatrices faites par leur base. Et pour ça, il est hyper important, et j'arrêterai là-dessus, d'avoir en face à ces lobbies conservateurs qui se reconstituent justement une société civile beaucoup plus plurielle, urbaine, éduquée et visible, qui puisse avoir accès au leadership, parce que c'est lui, in fine, qui va prendre les décisions finale sur les questions sensibles comme celles que vous avez évoquées.
Notamment, il avait été question à plusieurs reprises à Idlib d'instaurer une police des mœurs, et finalement c'est Al-Joulani qui s'est apparemment toujours débrouillé pour qu'elle ne voie pas le jour. Il n'a pas abrogé la loi, mais en tout cas il a fait en sorte qu'elle ne soit pas appliquée. Donc cette société civile et les moins conservateurs aussi du mouvement qui doivent prendre de plus en plus de place, estimez-vous, l'un et l'autre, aussi pas seulement pour la sécurité à la connemanie de tous en Syrie, mais aussi pour que tous aient accès aux services publics, et ça, ça sera le gros enjeu aussi.
Mais je crois que c'est, on a tendance à mettre l'accent sur des problèmes qui ne sont essentiels, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait dans les priorités de la quotidienne des habitants de la Syrie, y compris Damas, Alep, les grandes villes. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette population souffre économiquement depuis des années d'une véritable paupérisation. On est 80% sous le seuil de pauvreté, même à Damas et dans ses environs. Donc, et il y a, par exemple, j'ai vu, c'était vraiment la première chose dont on nous parle, c'est l'électricité. Moi, j'ai 4 appartements de famille où j'aurais pu aller, et j'ai dû aller à l'hôtel parce que l'hôtel a un générateur et qu'on a il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, forcément, il n'y a pas de fuel, il n'y a pas... Donc, il faut se rendre compte que la réponse aux problèmes quotidiens, et je pense que l'équipe là de l'AIA, de HTS, et on est tout à fait consciente, la priorité électrique, j'allais dire, est absolument déterminante. On l'attend là-dessus.
D'où les beaucoup visites plus, en Arabie Saoudite.
Beaucoup, voilà, beaucoup plus que sur les curriculums scolaires, etc. Bon, c'est important, c'est fondamental. Mais c'est là-dessus. Il y a plein de choses qui sont mises en route pour essayer d'avoir de l'électricité de Jordanie pour le sud qui peut aller jusqu'à Damas, dans le nord, la Turquie, etc. Donc, il faut bien vraiment voir les priorités. Il y a la sécurité, premier enjeu, et la vie quotidienne des services.
Même si l'un et l'autre sont liés, puisque d'aucuns craignent que pour obtenir aussi suffisamment de devises et d'argent frais pour maintenir les services publics ou les relancer, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve, et notamment dans les champs de pétrole du Nord-Est tenus aujourd'hui par les Kurdes. Est-ce que le pouvoir en place pour l'instant pourra s'entendre avec les FDS? Des discussions sont en cours et on aura l'occasion d'y revenir au cours de cette série. Dans un instant, on parle des Alaouites aussi qui sont aujourd'hui victimes ou qui ont peur des représailles. فحدد انتماءك بين القاعدة أو الحكم المجوسي لأنه صواريخ ما بتصيبك لو كنت بصفك روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوتشي غيرنا بينطمر بالعملة ونحن اللي منبتلى فاندفنا بالليالي لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر لو الفكر محجر زدت المقرر الجامعة انختمت بالشمع الأحمر عمين بدي ازعل على رفيقي يلي استشهد ولا عمنظر رفيقي ابن عش أمه عم يتنهد عمين عهالمشهد لما الدم بيمتزج بالدفتر والأشلاء عم تتعدد لسه بيحكوا شمال محرر ازعل على مستقبل الدراسي ولا 2000 طالب انطردوا من الكراسي ولا ازعل على استاذي اللي راح افقده واللي وعدني ما راح نيأس فمين بدي واسي انتو مين ضل منافق ما حكى بالدين هاد بيدعي الخلافة وهاد بيفدي عن يقين هالسياسة ساخرة نقابك اخلعوا بأرضي هاي البلد طاهرة هون معقل اتفاقيات الروسي فحدد انتماءك بين القاعدة او الحكم المجوسي لانه صواريخهم ما بتصيبك لو كنت بصفهم روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوشي تصنع ايديولوجي تدمير البنى التحتية فالموازنة بين الالف والقاف ما رح تمحي العنصرية او بين اخوان احزاب او مذاهب شيوعية ولو بتفصل اي شيء عن الدين بيتهموك بعلمانية الا لا
لو كنت أجنبي الجنسية اسمك متطرف سوق صودا وتبييض الأموال وتجار عملة وألف مصرف كلهم سلف ودين مثل السلف بالدين استلموا الميادين بعفرين عملوا مناطق عازلة كله بيشهد عليك إعلاميين منظمات خارجية وفصائل متخاسلة ما تحاول تزرع لا تحصد مستقبل لأنك عايش بأراضي قاحلة عنده ضمير يجيب لك شاهدين زور شافوك عم تسرق ويلزقك بتهمة باطلة كل واحد هون راس سلاح وبيت وسيارة وسفر فاخرة وخطابات ساخرة وعملة بادرة لتنهش الأيادي العاملة وشو ما سمعت أو شفت لازم تعمل حالك متت حتى ما تقول اندمت إنك اكشفت مخططات فاشلة غيرنا بينطمر بالعملة ونحن اللي منبتلى فاندفلنا بالليالي لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر لو الفكر محجر
Amir Al-Mouhri et cette chanson qui veut dire sur tous les fronts qui date de 2019. Amir Al-Mouhri, c'est un rappeur syrien qui avait quitté la région d'Idlib pour Istanbul au début de la guerre et qui est retourné pour aider sa famille quand son frère a été tué en essayant de franchir la frontière turque. Idlib ou Hayat Tahrir al-Sham, le groupe qui préside désormais aux destinées de la Syrie, avait gouverné pendant 7 ans. Quelle conclusion tirer de cette expérience? HTS peut-il diriger la Syrie comme il a administré Idlib? Nous en parlons avec nos invités Alaa Kodmani et Patrick Henny. Nous évoquions aussi le dialogue qui s'est mis en place entre Al-Joulani alias Ahmed Al-Shara et les différentes communautés qui forment une Syrie multiple. Les Alaouites se sentent aujourd'hui particulièrement vulnérables.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Les Alaouites représentent 10 à 12% de la population en Syrie et la famille Assad en faisait partie, qui s'est toujours présentée auprès d'eux comme un rempart face à la menace islamiste. La communauté Alaouite vit ses premières semaines d'exercice du pouvoir de HTS, partagée manifestement entre la joie de voir le dictateur déchu et la crainte des représailles de la part d'un groupe armé qui les a longtemps persécutés.
Ils ont déjà commencé à vouloir nous contrôler. Ils disent, vous devez prier comme nous. Vous devez pratiquer votre religion, comme nous le voulons. Ils vont nous attaquer, comme ça s'est passé avant, car c'est ce qu'ils avaient dit déjà avant. Ils avaient promis de nous respecter. Et puis ils ont commencé à tuer tout le monde.
Bonjour Ariad Ramanem.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en relations internationales à Sciences Po Paris. D'abord, pourquoi les Alaouites ont-ils peur de HTS? En tant que communauté religieuse, vous devez prier comme nous, affirme s'être entendu dire cette enseignante de Damas rencontrée par TV5 Monde. Qu'est-ce qui, dans la doctrine alaouite, peut poser problème aux islamistes de HTS?
Oui, tout à fait. La communauté alaouite, c'est un groupe ésotérique, qui se construit autour de croyances ésotériques qui a émergé au Xe siècle. Et dans les propos que vous avez relayés ici, je pense qu'on peut identifier au moins 2 mémoires traumatiques chez les Alaouites. Une mémoire de long cours, qui est celle des persécutions par des élites savantes sunnites, les fatwas par exemple d'Ibn Taymiyyah au XIVe siècle, qui réprimaient les croyances alaouites parce qu'ésotériques. Et une mémoire beaucoup plus récente, celle de la guerre civile, au cours de laquelle Jabhat al-Nasr, le fonds al-Nusra, dont hérite aujourd'hui Hayat Tahrir al-Sham, HTC, dans lequel ce front-là a émis des messages, des appels au massacre des Alaouites et a commis des exactions vis-à-vis de cette minorité.
C'est d'ailleurs contre le front al-Nusra et donc HTS un peu plus tard que Bachar al-Assad se présentait auprès des Alaouites comme le rempart contre la menace islamiste. C'est aussi comme ça qu'il les a tenus, lui et son père. À Fez el-Assad, menace par ailleurs réelle sous al-Nusra, sous le front al-Nusra. Mais c'est comme ça qu'il a fait en sorte de soutenir leur faveur.
Les groupes alaouites ont été largement mobilisés, voire instrumentalisés par le pouvoir des Assad, père Hafez et fils Bachar. C'est-à-dire qu'une petite partie de la communauté a effectivement intégré les structures du pouvoir, mais une grande partie, la majorité des alaouites, étaient eux tenus de soutenir les Assad par les cycles de peur que mettait en place les Assad, déjà dans les années 70-80, quand il y avait eu un conflit avec les frères musulmans, par l'usage de beaucoup de discours, de narratifs et de propagande, le régime avait réussi à aligner les Alaouites avec lui. Et idem, après 2011, le discours du régime, c'était « si c'est pas nous, c'est les islamistes, c'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique et Jabhat al-Nusra », menace qui s'est avérée, comme vous l'avez dit, réelle avec l'émergence, à partir de 2012, des groupes islamistes dans le conflit.
Les services de sécurité, l'armée, les milices pro-régime, tout était majoritairement composé d'alaouites. Donc ils ont aussi bénéficié d'un certain clientélisme, entre guillemets, parce qu'ils étaient payés pour ça. Tout le monde en Syrie n'avait pas de métier, n'avait pas de profession, n'avait pas d'argent.
Il faut faire une distinction, je pense, là-dessus, qui est très importante entre les quelques clans alaouites qui ont vraiment directement bénéficié du pouvoir par le biais de certains relais. Je prends pour exemple Ali Douba, qui était le directeur des renseignements militaires. Lui, il venait d'un clan alaouite qui s'appelle les Matawira, et il a fait en sorte d'intégrer beaucoup de personnes de son clan, et non pas du groupe alaouite plus large, dans ses services et leur faire bénéficier. Beaucoup d'alaouites sont rentrés dans l'armée, mais avant même les Assad, dès les années 40-50, et c'était beaucoup plus en réponse à un projet de modernisation du pays et d'exode rural, par le biais notamment de l'armée, mais aussi d'autres métiers. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu difficile de dire que ces personnes ont bénéficié, parce qu'elles ont payé un lourd tribut dans la guerre. On estime à 60 000 morts, à 60 000 le nombre de jeunes alaouites morts dans l'armée. Et on parlait aussi beaucoup ces derniers temps du salaire que ces personnes touchaient, 25 à 30 dollars par mois. Quand on regarde les personnes qui travaillent dans le privé, dans la sécurité privée, elles touchaient 10 à 20 fois plus, si vous voulez. Donc la terminologie ici est assez délicate.
Il y avait d'ailleurs eu un grand mouvement de grève à l'été 2023, un mouvement qui avait commencé dans la ville de Souaïda, dans le sud du pays, contre notamment le rationnement de l'électricité, les grandes pénuries et les salaires très bas. Il se trouve, Ariad Ranem, que vous êtes vous-même originaire d'une famille alaouite, de l'Attaquier. Quelles informations vous avez sur ces premières semaines post-chute du régime? Comment se passe une forme de cohabitation ou pas entre les alaouites et le HTS?
Déjà, il faudrait remettre les choses en contexte, comme ça a très bien été fait par les deux invités d'aujourd'hui. Lorsque HTS prend le pouvoir, on arrive donc à l'issue de 13 années de guerre civile, des dizaines de milliers de morts, de jeunes alaouites morts. Quand je parcourais les rues de l'Attaquier à l'été 2023, je voyais ces narwats, les petites affiches nécrologiques qui parlaient des martyrs, entre guillemets, alaouites de la guerre, des centaines et des centaines de ces affiches qui tapissaient les murs de la ville. L'électricité dont Hala parlait à l'Attaquier, quand j'étais en Syrie l'année dernière, c'était une demi-heure d'électricité pour 5 heures et demi sans. Le tremblement de terre de février 2023 qui a beaucoup touché la région aussi. Donc, ras-le-bol des Assad, très fort, l'impression d'avoir payé un tribut très lourd pour défendre un régime qui ne les défendait pas, une situation économique catastrophique et donc un accueil, à la base, je dois dire, assez optimiste, qui a été tempéré, bien sûr, par les récits et ensuite des humiliations, exactions de ces dernières semaines.
Il y en a eu à l'Attaquier notamment, ou dans votre entourage, vous avez entendu beaucoup de ces récits.
Bien sûr, si vous voulez, dans un premier temps, c'était notamment, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un peu cette chasse aux complices du régime qui a été ouverte, et des très importants dignitaires ont été arrêtés, comme le Kanjo Hassan, qui dirigeait la justice militaire, des personnes, des barbares, hein, qui ont beaucoup de sang sur les mains. Mais dans le cadre de cette chasse, des abus ont pu être produits, parce que c'est très difficile, en fait, de qualifier les complicités, qui est complice du régime et qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il faudrait, à ce niveau-là, une vraie justice transitionnelle, un vrai travail. Et l'autre chose, c'est la question de toutes ces factions qui sont sur le terrain, à quel point est-ce qu'elles relèvent d'un commandement central? Parce que là aussi, des débordements sont commis, et quand on se réfère au commandement central, bien évidemment, le discours est différent, il est beaucoup plus conciliant, et il n'hésite pas, évidemment, à rétablir l'ordre quand de telles exactions sont commises. Mais aujourd'hui, c'est surtout dans la région de Homs aussi que la situation est très difficile pour les alaouites.
Donc on entend, bien sûr, des récits d'alaouites qui disent que HTS a frappé à leur porte, et sans savoir véritablement s'il s'agissait de combattants de HTS ou pas. Il se trouve que quand le groupe multipliait les victoires juste avant la chute de Bachar al-Assad, Al-Joulani avait fait distribuer un tract à la population alaouite pour lui demander de se dissocier du président al-Assad. L'avenir de la Syrie, était-il écrit, sera celui d'un pays unifié. Il n'y a aucune place pour le sectarisme. Peut-être pour conclure, le dialogue entre HTS et des représentants de la communauté alaouite, pour l'instant, il se fait comment et par qui?
Il se fait difficilement parce que les Assad ont tellement instrumentalisé les alaouites, ils ont tellement empêché que la communauté s'organise, parce qu'ils avaient intérêt à ce qu'elle reste éparpillée, qu'aujourd'hui, à l'inverse des druzes par exemple, qui ont des référents évidents, pour les alaouites c'est très difficile de s'organiser. Ils restent dans cette situation très délicate, ça c'est une première chose, bien que des conseils se constituent à l'échelle de l'Attaquier ou Tartous par exemple. L'autre chose, c'est qu'une grande partie de la communauté, comme d'autres communautés en Syrie est sécularisée. Donc le dialogue interreligieux que Jolani essaye de lancer ne suffira pas à recouvrir l'ensemble des problématiques. Donc pour lancer véritablement ce dialogue, il va falloir bien sûr aussi adresser les récits terribles qu'on entend de Homs et de différentes villages. Les attaques qui ont eu lieu de la part d'HTS contre d'anciens dignitaires du régime ont montré en fait que la dissociation existe. Les Alaouites, en grande majorité, ne se sont pas battus avec les quelques milices restantes pro-Assad dans le pays.
Et c'est pour ça, Alaa Kodmani, que vous nous disiez tout à l'heure rêver du jour où en Syrie on ne parlera plus des sunnites, des Alaouites, des chrétiens et des Kurdes, mais vraiment des Syriens. Des citoyens syriens.
Bah, je dirais ça, oui, évidemment, c'est le rêve, c'est l'idéal, et on se bat, je crois que beaucoup de Syriens se battent pour ça, et il faut aussi faire passer ce message, y compris auprès des Européens ou des autres Occidentaux, qui ont tendance tout le temps à venir approcher la question des Syriens, de s'adresser aux Syriens depuis toujours sous l'angle communautaire, communauté, diversité, minorité, etc. Là, j'ai vu par plein de chrétiens syriens, par exemple, ou autres, ou druzes, ou tout, dire « je ne suis pas une minorité, je suis juste citoyen syrien ». Et arrêter de me classer dans cette case « minorité ».
C'est ce que disait aussi Luc Alazo vendredi dans le retour de Nord-Est de Syrie. Il disait que beaucoup des Kurdes qu'il avait rencontrés voulaient faire partie de cette grande Syrie plurielle. Peut-être un tout petit mot, Patrick Henny, parce qu'on n'a pas évoqué, il nous reste deux minutes, on n'a pas évoqué la future armée syrienne. Il se trouve qu'il y a une semaine à peu près, 49 officiers ont été nommés par HTS, tous issus des rangs de Hayat Tahrir al-Sham, pour former non pas un début d'armée, mais en tout cas un état-major, entre guillemets. Qui sont les plus haut gradés? Est-ce que parmi eux se trouvent des djihadistes étrangers? C'est une grande question qui s'était posée à un moment des Tchétchènes, Ouzbeks, Afghans, Français, Albanais qui avaient rejoint le Front Nosra ou HTS à un moment quand le groupe était une filiale d'Al-Qaïda. Qu'est-ce qu'on sait de ces 49 officiers?
Alors je pense que pour l'instant la question de la refondation de l'armée, tout d'abord elle reproduit un peu les mêmes problèmes qu'on a vu ailleurs quand on voyait des autorités civiles de transition se mettre en place. Jolani s'appuie sur ceux avec lesquels il était, et ça veut dire que quelque part la capacité d'institutionnaliser une structure militaire au-delà de ce qui était le modèle qui fonctionnait, c'est-à-dire un assemblage de groupes rebelles sous une supervision unique, mais qui existait en tant que groupe, pour l'instant, il n'y a aucune clarité au-delà de slogans. C'est-à-dire, les slogans, il faut refuser les blocs à caractère ethnique ou régionaux ou confessionnels. Et quand il dit à caractère régionaux, il fait référence au Sud, mais il fait aussi référence au groupe armé qui existe encore comme entité spécifique dans le nord de Alep. Mais une fois posés les slogans, pour l'instant, il n'y a aucune politique sur comment réformer une nouvelle structure militaire. Et pour l'instant, on est plutôt sur une gestion d'urgence où on s'appuie sur ceux avec lesquels on était, y compris certains internationaux. Et là, encore une fois, ce sera le même dilemme. Dans quelle mesure est-ce qu'il y aura une consolidation du pouvoir sur ce qui existe, ou alors une ouverture par une dynamique de transition qui se fera en parallèle?
Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les trois. Patrick Henny, chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence, Alaa Kodmani, grand reporter à Libération, et Ariad Ranem, doctorant à Sciences Po Paris. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Les Vietnamiens, Catherine Dutu, constituent l'une des premières nationalités à entrer illégalement au Royaume-Uni sur ces fameux petits bateaux qui traversent la Manche.
Et pourtant, le Vietnam est l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, s'enorgueillit le quotidien vietnamien Tan Nhien. Pourquoi les ressortissants de ce pays sont-ils donc si nombreux à risquer leur vie pour atteindre le Royaume-Uni, se demande la BBC. Plus de 4000 ont débarqué illégalement sur les côtes anglaises l'an dernier. Les Vietnamiens ont même dépassé, alors temporairement, les Afghans et les Iraniens sur les 6 premiers mois de 2024, précise la BBC. Phuong, par exemple, s'est demandé si elle qu'elle devait monter à bord d'un petit canot pneumatique où s'entassaient 70 personnes. Cette Vietnamienne, coincée en France depuis 2 mois, raconte la BBC, se souvient qu'il n'y avait pas assez de gilets de sauvetage pour tout le monde sur le bateau. La peur palpable, l'épuisement et le désespoir sur les visages. Phuong, qui a quitté le Vietnam et transité par la Hongrie, avait déjà dû faire demi-tour 3 fois au milieu de la Manche à cause du mauvais temps ou d'une panne de moteur. Impossible de rebrousser chemin une fois de plus, elle qui a emprunté l'équivalent de 30 000 euros pour rejoindre l'Angleterre et sa sœur qui vit à Londres. Phuong est finalement arrivée saine et sauve, raconte la BBC. Aujourd'hui, sans aucun statut légal, elle rêve toutefois d'économiser suffisamment d'argent pour fonder une famille. Un parcours chaotique, bien loin des histoires de migration régulières et réussies mises en avant par le journal vietnamien Toi Tuê, alors que des exilés, des femmes vietnamiennes, finissent par être victimes de trafic sexuel ou bien exploitées dans des salons de manucure britanniques, rapporte encore Toi Tuê. D'autres immigrés, des hommes, des adolescents, sont forcés de travailler dans des plantations illégales de cannabis, dont le chiffre d'affaires annuel frôle les 3 milliards de livres sterling au Royaume-Uni, estime la BBC. Les Vietnamiens représentent aujourd'hui plus d'un dixième des personnes qui portent plainte pour esclavage moderne en Angleterre.
Est-ce que ces histoires ne servent pas d'épouvantail au Vietnam, Catherine ?
Les Vietnamiens qui arrivent au Royaume-Uni ne disent pas grand-chose en fait à leur famille restée au pays des risques encourus, explique la BBC. Et la tragédie de 2019, vous vous en souvenez peut-être, où 39 Vietnamiens avaient été retrouvés morts, asphyxiés dans un camion à Londres, semble pour certains un simple accident de parcours, un coup de malchance. Mais cela a poussé les candidats à l'exil à s'éloigner peut-être des routes pour se tourner vers les fameux petits bateaux, ajoute la BBC. Des Vietnamiens mus par l'espoir d'une vie meilleure sur le plan économique, dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas les 280 euros. Envie de démocratie aussi. The Vietnamese Magazine dénonce régulièrement les arrestations et emprisonnements des voix dissidentes dans un Vietnam communiste à parti unique. Et dans ce pays de 100 millions d'habitants où la diaspora aide à faire vivre des familles entières, note Sky News, les passeurs se servent des anciens pays du bloc communiste comme la Hongrie pour obtenir des visas, précise The Telegraph, The Week et le journal vietnamien Vien Express.
It's a very lucrative business. If you have a good reputation, the clients come to you.
No force, c'est une activité très lucrative, confie un passeur vietnamien à la BBC. Si vous avez une bonne réputation, les clients viennent à vous, pas de violence, pas d'histoire. Cet homme qui montre sous couvert d'anonymat aux médias publics britanniques comment il falsifie des fiches de salaire, des relevés bancaires pour faire sortir ses compatriotes du Vietnam, explique encore que les gens lui font confiance, qu'il n'échoue jamais dans son travail. Cet homme se défend de forcer les Vietnamiens à emprunter des routes dangereuses. Il leur conseille même de rester chez eux plutôt que de s'endetter davantage. Les passeurs facturent généralement entre 18 000 et 40 000 euros le voyage vers le Royaume-Uni. En mars, le ministère de l'Intérieur britannique a lancé, lui, une campagne sur les réseaux sociaux pour dissuader les Vietnamiens de venir illégalement en Angleterre, rapporte Sky News. Mais selon ITV News, ce trafic d'êtres humains entre le Vietnam et l'Angleterre continue de prospérer, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an.
Et pour finir, Catherine, vous nous emmenez aux États-Unis où une dessinatrice démissionne du Washington Post.
Anne Telness, lauréate du prix Pulitzer du dessin de presse, s'est vue refuser un dessin où l'on voit le propriétaire du quotidien Le Washington Post, Jeff Bezos, également fondateur d'Amazon, à genoux, remettant des sacs d'argent à une statue de Donald Trump aux côtés du propriétaire d'un autre journal, le Los Angeles Times, ou encore du fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, un dessin que l'on peut voir notamment sur le site de CNN. La dessinatrice explique vouloir critiquer les PDG milliardaires du secteur des technologies, des médias qui font de leur mieux pour s'attirer les faveurs du président élu 2 semaines avant l'investiture de Donald Trump. Anne Telness a déclaré qu'elle n'avait jamais vu auparavant l'un de ses dessins rejeté, non pas pour des questions techniques, mais en raison de son message. Une telle mesure, souligne-t-elle, est dangereuse pour la presse. L'association des dessinateurs éditoriaux américains accuse le Washington Post de lâcheté politique. Les craintes pour la liberté de la presse, c'était le thème de la revue de presse interactive de samedi dernier. À partir de vos questions, de vos remarques, je les attends toujours à l'adresse mail fcrdpi@radiofrance.com.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, il n'y aura pas d'émission Culture Monde exceptionnellement pour cause de diffusion, figurez-vous, de la messe du Noël orthodoxe. On se retrouve mercredi à 11h et on poursuit jusqu'à vendredi notre série sur la Syrie de demain.